Eh bien voilà le premier cours après ma leçon inaugurale. Le cours est donc jusqu'à 11h et puis ensuite le séminaire s'enchaînera après une très très courte pause et le séminaire accueillera Claude Tello tout à l'heure que je vous présenterai plus en détail le moment venu. Je vais consacrer un premier ensemble de leçons dont j'ai donné ici le déroulé à la question de la valeur du travail dans la perspective suivante. Dans la première de ces leçons, aujourd'hui, j'énoncerai les conditions les plus exigeantes sous lesquelles un travail peut avoir une valeur absolument positive. Je me référerai aux théories qui relèvent de ce qu'on appelle une conception expressive du travail et qui s'appuie sur cette conception pour critiquer la dégradation de toute autre forme et contenu de travail comme une dégradation de la valeur intrinsèquement positive du travail. Donc il s'agit d'énoncer les conditions sous lesquelles un travail est une valeur et les conditions sous lesquelles il est dégradé en contre-valeur. Une de mes références principales sera l'œuvre de Marx et notamment je m'appuierai sur la lecture très approfondie et très originale qu'en a donnée Jon Elster. Mais je me référerai aussi, vous allez le voir très vite, à des auteurs assez variés qui vous indiqueront que ce n'est pas simplement une affaire d'histoire de la pensée, mais qu'il y a une actualité multifacette de cette question. Je me référerai à un économiste, Richard Caves, à John Rawls en sciences politiques et en philosophie politique, à Wright Mills, à Richard Sennett, à Durkheim, à Daniel Bell et à quelques autres. Donc mon propos est en un sens de dégager des conditions de possibilité de la valorisation absolue du travail. Pour connaître le sens exact de cette valorisation, c'est-à-dire les hypothèses nécessaires, réalistes ou irréalistes. Ensuite viendront les requalifications relatives de cette valeur du travail. C'est l'objet de la deuxième de ces leçons. Je ferai pivoter l'analyse vers l'univers des transactions dans lesquelles le travail est normalement plongé, dont il fait normalement l'objet. Au lieu de considérer le travail à partir de sa valeur et d'adopter le point de vue du travailleur en tant que producteur qui maîtrise ou ne maîtrise pas l'effectuation de son travail et qui se reconnaît ou ne se reconnaît pas dans le résultat de son travail, toute question qui occupe depuis longtemps la science sociale, j'examinerai le travail à partir de la relation d'échange et de marché. Et dans cette approche, le travail a d'abord une valeur instrumentale qui s'oppose à la valeur expressive. Il permet de se procurer un salaire, des biens et des services, et ces biens et ces services sont, eux, les sources ultimes de la satisfaction individuelle à travers l'utilité qui est retirée de tout ce qui est hors du travail. La consommation, le loisir et les activités exercées hors du travail. La rémunération devient alors une variable plus complexe qu'un simple salaire au-dessous duquel je n'accepterai pas de travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle un salaire de réserve. Car la rémunération peut inclure ou non des suppléments ou des soustractions en fonction de la valeur des multiples caractéristiques positives et négatives d'un travail et d'un emploi. Il y a là un argument parcimonieux que je vais examiner, qui est élégant mais qui a ses limites. C'est ce qu'on appelle les différentiels compensateurs. Ce qu'un métier contient de positif ou de négatif, au-delà de la simple rémunération qui se construit à partir d'une multiplication entre efforts et qualifications, ces éléments positifs ou négatifs doivent être l'objet d'une compensation. À travers ce type d'approche, on arrive à une caractérisation multidimensionnelle du travail parce qu'elle est située dans un marché, dans des divisions de métiers, de spécialités, de branches, d'activités, et donc nous la situerons aussi dans un environnement, une entreprise, des équipes, des environnements locaux, une concurrence internationale. Ce sont les dimensions qu'écartait la critique radicale contenue dans l'approche numéro 1, celle d'aujourd'hui. Donc, au lieu d'envisager le travail dans sa valeur absolue, je vais l'étudier ensuite dans toutes les dimensions de sa valeur relative, pour le calcul de laquelle il y a des comparaisons, des arbitrages, des compensations, des informations plus ou moins complètes, une dynamique des comportements dans la relation de travail et des segmentations de la valeur du travail. Le troisième volet, donc le 31 janvier, si je n'ai pas débordé trop douloureusement dans mon temps de une heure de ce que j'ai à dire, à la suivante et à celle-ci, le troisième volet sera consacré à une caractérisation non plus en termes de prix et de quantité, mais en termes d'environnement de travail et en termes de risques. Exposition à des risques physiques ou psychiques, un sujet qui est monté beaucoup ces dernières années, dans l'exercice de l'activité, à des conditions plus ou moins favorables de réalisation de son travail, selon la qualité du management et selon le comportement des partenaires de travail, exposition à des risques liés à l'environnement national et international de l'activité, aux performances de l'entreprise, à la conjoncture générale, aux chocs technologiques. Certains de ces risques sont strictement négatifs, d'autres sont des opportunités pour l'action. Un monde où il n'y a pas de risque est un monde où on n'agit pas, on subit. Des opportunités pour l'action ou l'initiative, et la gestion de ces risques dépend des interactions de travail et de la structure et du comportement de l'organisation. Certains risques sont assurables, d'autres sont compensables, d'autres sont générateurs de mobilité ou d'innovation. Donc j'examinerai là la valeur du travail à partir des conditions de son effectuation. Pour le faire, je mobiliserai des travaux de sociologie et d'économie et aussi d'ergonomie qui touchent à la question des conditions de travail, mais aussi à ce qu'un grand sociologue américain, Everett Hughes, appelait la dramaturgie sociale du travail. Une approche très originale qui n'en finit pas d'inspirer la bonne sociologie, je crois, aujourd'hui. Enfin, j'aborderai en quatrième leçon le versant opposé de celui du travail, c'est-à-dire la variété des situations de non-travail et des usages du temps hors du travail. Le centre de l'analyse, c'est le loisir, et l'analyse consistera à opérer pour le loisir une décomposition symétrique à celle du travail. Il existe bien évidemment des quantités et des qualités fort différentes de loisirs. Une situation surprenante sur laquelle je vous laisse méditer pour l'instant, c'est que quantité et qualité ne sont pas forcément associées positivement. En d'autres termes, la fameuse classe de loisirs de Thorstein Veblen, celle des classes supérieures, a changé. Les quantités, les qualités et les intensités de travail sont couplées bien différemment aujourd'hui avec les quantités et les qualités de loisirs. Au terme de cette première série de leçons, je vous livrerai une conclusion théorique intermédiaire. Alors, j'en viens à la première, donc la valeur expressive du travail. Dans ma leçon inaugurale, j'ai brièvement mentionné les deux définitions fonctionnelles ordinaires du travail, sa valeur instrumentale et sa valeur expressive. Selon la première, le travail, c'est l'engagement de l'énergie individuelle dans des conditions plus ou moins pénibles d'efforts physiques et de charges mentales. Et selon la seconde, c'est la réalisation de soi dans l'agir productif. Alors, la distinction entre ces deux valeurs a été forgée par une très longue tradition philosophique et reprise dans la critique sociale de la mutilation du travail par sa spécialisation et sa marchandisation. Et elle n'est devenue, comme je l'ai dit brièvement, opératoire qu'avec la caractérisation multidimensionnelle de toute espèce de travail. Mais que nous dit exactement cette opposition entre travail instrumental et travail expressif ? Est-ce que cette opposition est strictement superposable à une opposition entre travail simple ou routinier et travail complexe ? Pour vous donner un aperçu du problème, je vais partir de quatre éclairages qui vont en quelque sorte faire tourner le sujet de manière un peu inattendue, mais pour vous encourager à l'attention et au questionnement. Je vous propose d'abord cet extrait de ce grand livre de John Rawls qui s'appelle « La théorie de la justice », qui est un grand classique de la science sociale, autant que de la philosophie politique. Et la citation qui figure ici, pour ceux qui parviennent à la lire, mais je vais la lire à haute voix, cette citation fait apparaître le lien entre la satisfaction ou la gratification procurée par l'activité, sa complexité et l'individualisation expressive dans l'activité. Je lis. Il se peut que des activités complexes soient plus agréables parce qu'elles satisfont le désir d'expériences nouvelles et variées et laissent de la place pour des prouesses d'ingéniosité et d'invention. Elles évoquent aussi les plaisirs de l'anticipation et de la surprise et souvent la forme d'ensemble de l'activité, son développement structural, sont beaux et fascinants. En outre, des activités plus simples excluent la possibilité d'un style individuel et de l'expression personnelle que permettent et même exigent des activités complexes, car comment tout le monde pourrait-il les réaliser de la même façon ? La fin de cette citation suggère qu'il y a des travaux où les individus sont interchangeables et des travaux où ils ne le sont pas. Et voilà donc la deuxième indication que je vous propose qui concerne ce sentiment de substituabilité. Dans leur enquête, sur le bonheur au travail, Christian Baudelot et Michel Golac s'appuient sur un travail fait en collaboration avec l'INSEE à la fin des années 90 et publié en 2003. Et dans ce travail, qui explore les dimensions de satisfaction ou d'insatisfaction à l'égard du travail, Christian Baudelot et Michel Golac posent la question suivante. Considérez-vous que n'importe qui peut faire le travail que vous faites ? Et donc, c'est ce sentiment d'interchangeabilité. Sans grande surprise, le sentiment d'interchangeabilité et le niveau de satisfaction au travail sont évidemment reliés négativement. On est d'autant plus satisfait au travail qu'on se sent moins interchangeable. Mais le tableau que je vous présente donne une distribution des réponses en fonction du niveau de formation des individus. Le niveau de formation initiale, avec l'horizon professionnel qu'il ouvre, fournit une explication la situation d'interchangeabilité ou de la différenciation du travail selon les capacités d'individualisation. C'est ce qui est derrière le terme d'interchangeabilité au sens négatif. Et vous voyez bien que le sentiment d'interchangeabilité est le plus faible là où le diplôme est le plus élevé, et il est beaucoup plus élevé dans les métiers ou dans les activités dont les détenteurs n'ont pas de diplôme. Et c'est très strictement décroissant. La distinction homme-femme mérite une analyse particulière que je ne vais pas entamer maintenant, mais sur laquelle je reviendrai un peu plus tard. Le sentiment d'interchangeabilité est beaucoup plus marqué chez les femmes qui ne sont pas diplômées, mais il décroît et il est un peu moins fort au niveau le plus élevé de diplôme. Mais je laisse ce point de côté, j'y reviendrai plus tard, parce qu'il y a des travaux très intéressants sur la nature sexuée ou genrée, comme on dit, de la satisfaction au travail. Je les aborderai plus tard. On a donc ici une première approche de la différenciation du travail selon ses capacités d'individualisation, en fonction des connaissances et de la teneur en complexité des actes de travail et corrélativement en fonction de la capacité très variable que le travail offre à un individu de s'identifier au processus et aux résultats de ce travail. Je dois aussi ajouter que la question du niveau de formation initiale qui est requis pour obtenir un travail dont la valeur intrinsèque, je veux dire le caractère motivant, est complémentaire de la valeur extrinsèque, c'est-à-dire le salaire, c'est une introduction à une question beaucoup plus vaste que je reprendrai ultérieurement, la question de la complémentarité entre la valeur formatrice d'une certaine qualité de travail et celle de la longueur des apprentissages nécessaires à l'obtention de la maîtrise ou de la virtuosité dans l'exercice des tâches de son métier. La troisième indication vient, ou éclairage, nous vient d'une enquête de l'INSEE, Histoire de vie et construction des identités de 2003. Et je me réfère ici à l'exploitation qu'en ont faite Hélène Garner, Dominique Méda et Claudia Sénic, dans un volume de la DARES, du ministère du Travail, intitulé « La place du travail dans l'identité ». Et là, la question de l'enquête sur laquelle je m'arrête portait sur l'importance relative du travail. Plus précisément, on demandait aux personnes, non pas de dire si le travail est important, ni même de citer des domaines importants, mais de dire si le travail est plus ou moins important que d'autres activités ou temps de vie, par exemple la vie familiale, la vie sociale et la vie personnelle. Ce type de questions figure sur l'agenda des travaux de certaines des collègues qui ont fait l'enquête, et aujourd'hui, plus encore qu'hier. Pour celles et ceux qui déclarent que le travail est plus important ou très important, la profession, comme le font apparaître mes collègues, la profession est un bien meilleur indicateur que le niveau de diplôme ou de revenu. Quel que soit leur revenu, les artisans et les commerçants accordent une forte importance au travail et les plus aisés ne sont pas nécessairement ceux qui lui accordent la plus grande importance. Ici, vous avez la liste des professions détaillées. Vous avez les commerçants, les artisans sont là, mais après un travail d'analyse de régression logistique, donc en contrôlant l'influence d'un certain nombre de facteurs et en raisonnant toutes choses égales par ailleurs, voilà la hiérarchie des professions en fonction de l'importance attribuée au travail. Et l'argument qui est sous-jacent à ce classement, en quelque sorte, c'est que le fait d'exercer une profession permettant l'expression de soi, donc je suis bien dans l'univers de ce que j'appelle le modèle expressif, on a en tête les professions de l'information, de l'art, des arts et des spectacles, qui sont très nettement en haut de la hiérarchie de cette enquête, c'est le fait d'exercer une telle profession indique que le travail a une importance en fonction de cette teneur en potentiel d'expression. Et donc, on confirme ici qu'il y a un lien entre la nature créative d'un travail et son importance dans la vie des individus et dans les arbitrages qu'ils font. D'autres variables sont mises en avant, le fait, par exemple, d'avoir des horaires longs et un travail qui occupe l'essentiel du temps est plutôt prédictif de l'importance accordée au travail au sens positif du terme. Et vous comprendrez mieux ce point, ou vous en comprendrez l'analyse détaillée, ou vous en aurez l'analyse détaillée, lorsque j'évoquerai la question des arbitrages entre travail et loisirs. Et sans surprise, les cadres, les commerçants, les artisans et les agriculteurs ont à l'égard des quantités de travail une vision très différente de celle des salariés situés moins haut dans la hiérarchie des emplois ou des salariés en général. Et donc, le fait d'être indépendant est plutôt prédictif l'importance, du sentiment d'importance accordé au travail. La quatrième indication vient d'un tout autre horizon, et à travers ces indications, je veux donner aussi une petite signature, en quelque sorte, de mon travail. Je suis sociologue, mais j'aime me nourrir de travaux dans des univers assez différents du moment que j'arrive à les faire converger vers les sujets qui m'intéressent. Et j'ai plaisir à citer ici le travail d'un économiste américain, Richard Caves, qui est un économiste spécialiste d'économie industrielle, mais qui a publié en l'an 2000 un ouvrage qui s'appelle Creative Industries. Je crois qu'il a été traduit, mais j'en suis pas tout à fait certain, il faudra le vérifier, et qui est à mes yeux le meilleur ouvrage que je connaisse sur l'économie des arts et de ce qu'on appelle aujourd'hui, beaucoup plus qu'autrefois, les industries créatives. Il se publie en ce moment beaucoup de travaux qui, en quelque sorte, nous persuadent que les industries créatives sont plus importantes que l'industrie automobile, en valeur, en emploi, etc. Mais il faut comprendre les propriétés économiques de base de ces activités. Et cet ouvrage est extrêmement original à cet égard. Et voilà les 6 propriétés économiques de base que je vous détaille brièvement. Je vais m'intéresser à la deuxième, mais la première, c'est personne ne sait exactement qui va réussir, et il y a une forte incertitude sur la réussite. La deuxième, c'est art for the art's sake. Il faut avoir une motivation intrinsèque pour exercer ce travail à son niveau maximum de créativité. La troisième, c'est la propriété de Motley Crue, c'est-à-dire les emplois sont situés dans des univers de travail collectif, dans des équipes, et avec des problèmes de coordination et de stratification. Je ne discute pas ces autres caractéristiques, mais je les mentionne. La quatrième, c'est la variété infinie. Il y a une compétition par l'originalité et par ce que j'appelle la différenciation horizontale. Ça, c'est mon vocabulaire, ça n'est pas le sien. Mais dans la cinquième propriété, c'est bien celle qui fait pivoter cette différenciation horizontale, c'est-à-dire chacun se juxtapose à autrui pour produire de l'originalité. Cette différenciation pivote et devient verticale puisqu'il y a des classements. Chacun fait ses classements et l'argument subtil de Cave, c'est de dire on n'a pas besoin de classements très sophistiqués au départ pour évaluer quelque chose. C'est est-ce intéressant? Oui, ça n'est pas intéressant, etc. Il suffit de catégories assez frustes qui ensuite vont déclencher des catégorisations plus fines et des hiérarchisations personnelles ou critiques, etc. Et qui donneront lieu à des systèmes de classement et à des tournois de célébrités. Et la dernière propriété, qui est effectivement une idée forte, qui appartient aussi à beaucoup d'auteurs, c'est les biens non utilitaires sont des biens super durables. Ils ne sont pas déclassés par des biens qui rempliraient les mêmes fonctions de manière plus efficace, à la différence des biens utilitaires qui sont améliorés par les technologies. Et alors, la deuxième propriété, c'est celle de motivation intrinsèque et créativité. Elle indique que les artistes expriment de la fierté et un souci constant pour la qualité du travail qu'ils accomplissent et pour les œuvres qu'ils livrent. Or, cet élément n'apparaît pas dans le raisonnement économique. Alors qu'il joue un rôle énorme dans l'organisation de la production des biens de création. Prendre soin de l'originalité de son travail ou des prouesses techniques de son activité ou se soucier jusqu'à l'obsession de l'intégration formelle du tout et des parties d'une œuvre qu'on est en train d'écrire ou de composer, voilà une attitude qui est assez inhabituelle et énigmatique quand on pense que le public ne perçoit pas forcément le résultat, c'est-à-dire qu'il ne perçoit pas forcément la sophistication du travail et de tout le soin qui y a été mis. Et l'écart peut être même considérable entre la manière dont un musicien va raffiner l'exécution d'un morceau et ce que l'auditeur du concert va percevoir. Il est donc remarquable qu'un artiste puisse consacrer, ou un travailleur qui se soucie du bon travail, c'est un vocabulaire qu'utilise beaucoup l'ergonome du CNAM Yves Clos, il est remarquable que quelqu'un qui se soucie de faire du bon travail, et un artiste en est un, puisse consacrer une partie de ses efforts à des tâches et à des aspects que les consommateurs ne percevront peut-être jamais. Et même, il peut renoncer à maximiser ses efforts sur ce que le public percevra peut-être le plus immédiatement, car le soupçon pourrait être qu'il rechercherait l'effet, ceci étant peut-être un temps acceptable, mais vite déconsidéré, car ce serait cette recherche de l'effet, donc la recherche d'un effort, l'engagement d'un effort visible à des fins précises, cette recherche-là indiquerait une recherche délibérée du succès plutôt qu'un comportement de « art for the art's sake ». Un point intéressant de cette affaire sur lequel on peut méditer, c'est aussi une remarque que fait Caves. Un entrepreneur culturel, c'est-à-dire un galeriste, un éditeur, un organisateur de concerts, peut se procurer du travail de cette espèce-là à coût relativement bas. On paye volontiers dans ces métiers, on paye les artistes à l'acte, au contrat, et souvent par une rémunération a posteriori en fonction des recettes ou des ventes réalisées. Mais la négociation autour du projet contient, elle, beaucoup d'éléments impossibles à spécifier au départ et beaucoup plus souvent que dans la plupart des situations contractuelles ordinaires de travail. Les artistes sont très peu enclins ou même totalement incapables de s'engager a priori sur des choix créatifs. Et donc, il faut placer de multiples boucles de renégociation, de révision, d'ajustement plus en aval dans le processus de création, et les conditions de négociation sont souvent délicates. En somme, c'est d'abord un engagement que prend l'artiste à prendre soin de son travail, de sa qualité et de son originalité que va rémunérer, a priori, un entrepreneur et pas beaucoup plus. Et cet engagement n'est pas rémunérable à un prix conventionnel pour la quantité d'efforts requis, car la relation entre la quantité d'efforts et le résultat est incertaine et variable. Avec ces quatre éclairages, nous disposons de quatre manières de qualifier la valeur du travail sur son versant positif, et les activités créatrices apparaissent comme des incarnations plus prévisible et plus constante d'une relation plus générale qui est la relation positive et gratifiante entre un travailleur et son acte de travail. Maintenant, je vais remonter aux origines conceptuelles et théoriques de ce modèle expressiviste du travail dont les résultats que je viens de mentionner sont une illustration possible pour examiner sous quelles conditions le travail a pu être jugé absolument irremplaçable comme source d'accomplissement individuel. Donc le travail est bien au cœur de l'affaire et pas autre chose. Et en même temps, si je pousse l'échelle de valorisation et sa graduation jusqu'à son maximum pour chercher là où il est absolument positif, je vais évidemment dégager un idéal type ou un idéal critique, mais je vais vérifier s'il est robuste et s'il est cohérent. Robuste et cohérent, ce sont deux qualifications un peu différentes, vous allez comprendre. Évidemment, dans le monde non idéal typique, on peut descendre les curseurs pour vérifier ce qui reste ou ce qui ne reste pas des conditions de possibilité de cette valorisation absolue du travail. Alors, je l'ai dit, l'analyse de la double valeur du travail est enracinée dans l'histoire. Elle va d'Aristote à des auteurs contemporains. Un de ceux qui a été beaucoup discuté récemment est André Gortz, mais cette histoire passe aussi par Hannah Arendt. Et chaque fois, il s'agit de vérifier ce que vaut le travail en fonction de son utilité directe ou indirecte. Cette tradition se confond avec, pour l'essentiel, avec l'histoire d'un modèle expressiviste de la praxis, de l'action transformatrice du monde. Souvenez-vous que Aristote disait que nous vivons dans le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui est situé sous la Lune, et que ce monde est inachevé, et que c'est dans un monde inachevé que l'action peut se développer. Dans un monde soumis à la régularité des astres et au principe de déterministe du mouvement des planètes et des atomes, l'individu n'aurait pas sa place, sauf pour exécuter les diktats de la nécessité des lois physiques. Si le monde est inachevé, l'action prend sa place. Voilà un résumé rapide, mais de la métaphysique aristotélicienne de l'action. Charles Taylor a retracé l'histoire de l'avènement des valeurs d'originalité, d'authenticité et de sincérité personnelle qui sont au cœur de la conception du soi individuel quand il a exploré ce qu'il appelle le tournant expressiviste de la culture moderne en Europe. Il la situe dans le sillage de l'œuvre essentiellement de Rousseau et de Herder, qui est un poète allemand. Dans cette conception, les individus sont dotés d'une forme d'intériorité inédite. L'individualité de chacun est fondée sur les caractéristiques particulières de sa personnalité, des caractéristiques qu'il faut préserver, de l'imitation et de l'influence d'autrui. Tous les mots comptent ici, j'espère qu'ils continueront à résonner dans ce que je dirai plus tard, parce qu'il faut les garder en mémoire. Quand on veut mettre en relation le travail et la personnalité individuelle, il faut qualifier aussi ce qu'est la personnalité individuelle pour savoir ce que le travail fait à la personnalité individuelle. Et chacun peut, grâce à la réflexivité du rapport conscient à soi et du dialogue intérieur, chercher à accéder aux profondeurs intimes de sa personnalité. La valeur d'authenticité que met en avant aussi la démonstration de Charles Taylor ajoute au contrôle réflexif d'un rapport sincère avec soi-même la reconnaissance de l'originalité de chaque mode individuel d'existence, ce qui est une source de célébration de la différence et de la diversité. Et dans ce cas, la réalisation de soi ne devrait être, dans l'idéal, entravée ni par le conformisme social, ni par des inégalités qui interdisent de reconnaître la juste valeur de la personnalité de chacun et qui empêchent l'épanouissement complet de celle-ci. Si chacun a une façon originale d'être humain, chacun doit encore découvrir ce soi qui ne se laisse rapporter à aucun modèle préexistant. Et ici intervient, dans la démonstration de Taylor, la référence à l'art et à l'artiste comme un modèle de définition de soi qui est tout à fait central. Je ne peux pas le détailler faute de temps, mais on peut en trouver aisément les démonstrations dans le livre de Charles Taylor, « Les sources du moi », et dans un autre ouvrage qui est le malaise de la modernité. C'est sur cette conception expressiviste que s'appuie Marx, notamment dès les manuscrits de 1844, pour formuler sa conception du travail. La généralisation à laquelle procède Marx part bien de l'idée d'une valorisation de la personnalité et de sa singularité irréductible et la met en contact avec le travail. La personnalité est une valeur universelle, le travail dans son incarnation souhaitable, c'est-à-dire libre et non aliéné, sera le moyen de réalisation de cette personnalité et rien d'autre que le travail. C'est le travail lui-même qui le sera. Ce moyen. Fidèle au modèle expressiviste, Marx prend appui sur la création artistique, mais il ne s'agit pas d'élaborer une esthétique spécifique, il s'agit d'élaborer une esthétique générale de la praxis, de l'agir productif. Et le contenu normatif de cette esthétique généralisée est clair. Les particularités du travail artistique peuvent devenir une référence pour la critique de tout travail non libre ou de tout travail salarié tel qu'il l'observe et l'analyse dans la société industrielle de son époque. Le travail désirable est cette activité concrète par laquelle le sujet s'accomplit dans la plénitude de sa liberté en extériorisant et en objectivant des forces qui sont l'essence de son humanité. C'est un argument qui, pour Marx, signifie que le travail a permis à l'homme de s'élever, de se libérer de son état naturel pour se transcender, et que le travail comme activité consciente et comme intervention sur la réalité extérieure est le seul fondement possible du développement des potentialités individuelles. Ça, c'est un argument qui vient du philosophe Hegel. Et pour ne pas être trop long, je vous donne une citation de Jean Hippolyte dans son commentaire de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. « Quand j'agis, même si j'explique avec subtilité mon opération par des considérations égoïstes, je me dépasse moi-même, j'actualise des virtualités que j'ignore. Sans action, je ne peux pas actualiser, je ne sais pas de quoi je suis détenteur. Grâce à mon acte, ce qui était en soi devient effectif. Je me figure limité à ma propre individualité et en fait, j'incarne plus ou moins un universel qui me dépasse. » En somme, il existe un bon et un mauvais individualisme. Le mauvais individualisme, c'est celui qui croit pouvoir faire valoir ses caractéristiques particulières de manière abstraite et arbitraire. Le bon individualisme, c'est la forme accomplie et supérieure de l'individualité comme médium de la puissance du monde. Je cite encore le commentaire de Jean Hippolyte, « Les dons, les capacités, les forces qui étaient en puissance dans le cours du monde se réalisent par l'efficace de l'individualité agissante qui les fait passer de la puissance à l'acte. » Je pourrais relier cet argument à la théorie du grand artiste qui est un casse-tête pour les sciences sociales, puisqu'il faut à la fois le situer dans un filet des déterminations sociales et expliquer pourquoi il est plus que ça, pourquoi il est grand, sans être simplement le produit d'une machinerie de compétition. Et l'argument est toujours le même. L'individu créateur incarne idéalement la nécessité historique, qu'elle soit sociale, naturelle ou tout ce que vous voulez. Cet argument, il a des variantes nombreuses, on le trouve y compris jusqu'à un certain point dans les travaux de Pierre Bourdieu. Je n'ai pas le temps d'explorer cette distinction entre bon et mauvais individualisme, mais il a une longue généalogie et j'y reviendrai plus tard dans la science sociale. L'argument qui est donc central ici, c'est que sans cette extériorisation dans l'acte de travail, l'individu ne peut pas connaître les capacités dont il est porteur. L'objectivation des forces du sujet dans le travail est opérée par une extériorisation, mais en bonne logique, cette extériorisation pourrait comporter le risque de l'aliénation, autrement dit, une situation dans laquelle l'individu, ayant exprimé ce qui définit son individualité, des intentions, un effort, une intelligence, une émotion, des qualités personnelles qui sont donc incorporées dans un acte de travail, eh bien, l'individu pourrait ne pas se reconnaître dans le produit de son travail qui lui est maintenant extérieur. D'une certaine manière, c'est le prix à payer pour exercer sa liberté, dirait Hegel. Mais le raisonnement dit aussi que en agissant sur la nature extérieure ou sur l'environnement, l'individu se transforme lui-même en même temps qu'il transforme la réalité extérieure. Mais ne soyons pas simplement des philosophes idéalistes. Là où Marx s'écarte d'un raisonnement à la Hegel, c'est que la réalité extérieure sur laquelle l'individu intervient, pour Marx, c'est une réalité sociale, économique, industrielle, alors que Hegel ne s'intéressait qu'à la nature pré-industrielle du monde, s'il allait du côté de l'économie et du social. Et donc, dans la conception marxienne du travail expressif, ou du caractère expressif du travail, la source de l'aliénation, c'est l'insertion du travail dans les rapports capitalistes qui dégrade le travail en marchandise et l'activité en effort rémunéré, instrumentalisé, en quantité échangeable et finalement abstraite, des temps, des quantités, des horaires, de la mesurabilité de toutes les qualités particulières pour les rendre commensurables, rémunérables, et pour en contrôler l'engagement dans l'acte de travail. Maintenant, la question est, à quel type exact de travail avons-nous affaire pour savoir s'il permet une bonne extériorisation ou un bon auto-accomplissement, ou self-actualization, comme on dit en anglais. Et ici, je retrouve un argument de Jon Elster dans son livre que j'ai mentionné sur Marx. Cet idéal d'autoréalisation qui constitue l'essence du communisme marxien est fondé sur une argumentation de type aristotélicien. Cet argument de type aristotélicien, j'en donne la formulation qu'en a produite John Rawls dans le même livre que j'ai cité, La théorie de la justice. Cet argument dit le principe aristotélicien affirme que toutes choses égales par ailleurs, les êtres humains aiment exercer leurs talents et que plus ces talents se développent, plus ils sont complexes, plus grande est la satisfaction qu'ils procurent. On prend d'autant plus de plaisir à une activité qu'on y devient plus compétent, et entre deux activités qu'on exerce bien, celle qu'on préfère et celle qui fait appel à une gamme plus large de jugements, plus subtile et plus complexe. Les êtres humains préfèrent le projet à long terme le plus complet parce que son exécution implique probablement une combinaison plus complexe de talents. Là, le caractère négatif du travail, ce qu'on appelle en économie sa désutilité, devrait donc s'évanouir dans le contexte d'une société qui permettrait cet engagement dans l'autoréalisation que je viens de décrire dans les termes d'Aristote retraduits par Rawls. Et donc c'est dans ce cas-là que le travail pourrait se manifester comme l'instrument par excellence d'un bien-être individuel. Mais il y a deux conditions qui sont présentes chez Marx, mais que ne reprendra d'ailleurs pas Rawls. Il faut que soient neutralisés tous les ferments d'inégalité de compétences dans la réalisation du travail. C'est une condition exigeante, et notamment les relations de concurrence qui pourraient provoquer la sélection différenciatrice de certaines compétences et qui pourraient avantager certains individus. Et la division du travail, pour les mêmes raisons, doit être dépassée. Comment y arriver ? Marx fait confiance au progrès technique en disant que les machines pourraient s'occuper de beaucoup de choses sous le contrôle des hommes qui, eux, exerceraient un travail beaucoup plus polyvalent et moins harassant. Nous verrons si les robots que le MIT nous invente ou que Carnegie Mellon nous invente vont rapidement se substituer à quantité de tâches que nous exerçons. Mais après tout, on peut projeter la chose dans un horizon plus lointain et on peut rêver à ce genre de réalisme du propos. Je veux dire ici, il faut que j'apporte une précision, mon propos n'est pas de déterminer à quelle distance nous nous trouvons actuellement d'un monde où le travail ne serait pas divisé, pas spécialisé et pas segmenté en emplois rémunérés, mis sur le marché, etc. Ce sujet n'est pas inabordable, il n'est pas simplement lié à un exercice de pensée, penser à un monde meilleur, ça n'est pas une simple utopie. On peut faire des calculs de distance entre le monde réel et des mondes possibles. Il y a des travaux assez savants de politistes qui s'exercent à cette arithmétique du contrefactuel pour calculer le nombre et la plausibilité des transformations nécessaires qui permettent de passer d'un monde à un autre. Ce sont des travaux très originaux dont la vérificabilité est problématique, mais les instruments heuristiques sont, eux, tout à fait stimulants. En particulier, je ne peux pas examiner ici le réalisme de deux des conditions qui sont mises à la réalisation d'une société qui dépassera la division du travail et la hiérarchisation des fonctions, c'est-à-dire l'abolition de la propriété privée, à laquelle est référée l'exploitation du travail comme une marchandise et l'extorsion de la plus-value, et l'abondance des ressources, qui est l'autre condition mise par Marx à la réalisation d'une société qui offre à chacun ce dont il a besoin. Évidemment, cette abondance serait le moyen de satisfaire les besoins d'un individu sans le faire entrer en concurrence et en rivalité avec les besoins d'un autre. C'est ce que précisément induit la relation de rareté, la situation de rareté, cette relation de rareté, ou situation de rareté, qui, dans la formule de Sartre que j'ai indiquée dans ma leçon inaugurale, brise la relation fondamentale de réciprocité entre les individus, alors même qu'ils se reconnaissent mutuellement dans leur liberté d'agir. Sur ce sujet, il y a beaucoup de problèmes à discuter. Marx faisait une confiance très élevée à la technique, d'autres et à l'arraisonnement de la nature par la technique, pour employer une formule philosophique célèbre. D'autres marxistes, et plus récemment encore, je veux dire Lukács, Bloch, Marcuse ou André Gortz, pour le citer à nouveau, indiquaient un scepticisme radical à l'égard de cet espoir technicien de Marx. En quelque sorte, cette confiance dans les innovations pour exercer une domination de la nature et résoudre tous les problèmes d'abondance de ressources. Mais je ne vais pas plus loin. Mon propos est en un sens plus limité, mais je pense qu'il est analytiquement plus radical. Il faut déterminer à quelles conditions il est possible de concevoir le travail comme bon et absolument épanouissant, et non seulement pour soi, mais pour chacun. Et je vais montrer que ces conditions de possibilité qualifient uniquement le côté de la production et qu'elles qualifient de manière absolument et irréductiblement négative toute relation d'échange dans laquelle le travail est pris. La première condition de possibilité, c'est la liberté, l'autonomie, la spontanéité, c'est-à-dire l'absence de prescription subordonnante dans l'exercice du travail. Ces mots deviennent des indices dans l'analyse des conditions de travail. Donc, prenez-les actuellement dans l'exercice que je réalise, prenez-les à leur graduation maximale. Ensuite, on va les faire entrer dans les interactions avec d'autres critères et on va descendre le curseur. Mais ces mots sont des mots clés. L'autonomie est une valeur essentielle. Elle a d'ailleurs son maximum et au-delà d'un certain point critique, elle peut devenir aussi un désagrément. Mais je reviendrai à ce point un peu plus tard. Donc cette première condition de possibilité est très nette. Elle a trait aussi à ce qu'on peut penser de la subordination dans la relation de travail et notamment dans la relation salariale. La subordination, c'est... je me subordonne contre un contrat qui a ses propriétés rémunératrices et assurantielles aussi. Marx a fait du travail créateur le levier de la distinction entre travail libre et aliéné, et le travail libre doit être le moyen de déployer la totalité des capacités. Et donc, parler d'activité créatrice, ici, c'est presque un pléonasme. Car l'agir humain dans une telle conception ne peut s'exprimer pleinement qu'à condition de ne pas se transformer en moyen pour obtenir autre chose, et notamment un gain, donc de ne pas être dépossédé de son sens, de ses motivations intrinsèques, ni du résultat de son action. Souvenez-vous du principe numéro 2 de Richard Caves, « Art for the art's sake ». Ça n'est pas la doctrine esthétique de l'art pour l'art, c'est plus que ça. Il ne s'agit pas de décrire ici en parlant du travail artistique ou du travail créateur, il ne s'agit pas de détailler les conditions de réalisation de ce travail comme un travail spécialisé. C'est l'inverse qui est fait par ce genre de théorie. Il existe une théorie générale de la praxis dont le travail est le socle, parce que le travail est une forme supérieure d'action et de réalisation, et les activités créatrices en sont une bonne incarnation. Voilà la démarche. Et ce que provoque tout simplement la division du travail, la spécialisation hiérarchisée des tâches, c'est la réification des capacités. Autrement dit, le développement de certaines qualités aux dépens d'autres. C'est le thème du salarié, en quelque sorte, mutilé, estropié, où l'on sacrifie tout un monde, comme dit Marx, de dispositions et d'intérêts producteurs. Les travaux qui ont été à l'origine de la sociologie française du travail après la Deuxième Guerre, notamment les travaux de Georges Friedman, qui sont inaugurés par un grand livre sur le travail en miettes, disent exactement cela à propos des effets dévastateurs de la division taylorisée du travail, qui sont une application et une amplification de cet argument. Et donc, dans une société qui aurait dépassé cet état-là, l'activité dans sa dimension gratifiante ne serait plus le fait d'une catégorie particulière de travailleurs spécialisés, l'activité créatrice en particulier, mais elle trouverait sa place dans une gamme d'activités habituelles de chacun. Il n'y aurait plus des poètes et d'autres travailleurs, mais chacun ferait notamment de la peinture ou de la poésie, mais aussi autre chose, comme le dit Marx dans l'idéologie allemande. Alors, est-ce que déployer ces capacités est un processus spontané et naturel ? Oui, en un sens, mais il faut trois conditions. Il ne faut donc pas qu'il y ait de contraintes sur la réalisation du travail. Il y a une deuxième condition qui est intéressante et qui n'est pas banale. Il ne faut pas qu'il y ait de possibilité d'échec. Et la troisième n'est pas banale non plus. Il ne faut pas qu'il y ait de jugement émis sur la valeur de la réalisation, car le jugement et sa nature comparative seraient porteurs de différenciation, de compétition, de spécialisation. Autrement dit, et ça c'est une condition extrêmement exigeante, il faut essentiellement bannir la dimension intersubjective de l'action créatrice pour en faire un principe d'expansion illimitée de l'auto-accomplissement individuel par le travail. L'argument de l'autonomie est à prendre en un sens au pied de la lettre. C'était du reste la définition kantienne qui dit que l'exercice de l'imagination productrice, c'est-à-dire la forme supérieure d'intervention sur son environnement pour créer quelque chose qui n'existait pas avant, cet exercice de l'imagination n'est possible que hors de toute fin particulière spécifiée et assignée à l'activité. Je vous signale que l'INSEE a retenu dans la définition de certains métiers artistiques strictement la définition kantienne, que donc ça n'est pas une simple couche de métaphysique dont je parle, c'est un ancrage profond dans les instruments les plus normalisés de la catégorisation du monde du travail et de ses professions. Donc, l'activité créatrice est un besoin naturel élémentaire de production, et Marx compare le travail d'un artiste au travail du ver à soie quand il dit « Milton a produit le paradis perdu pour la même raison qu'un ver à soie a produit de la soie ». C'est une manifestation de sa nature. C'est relié à cette métaphysique post-kantienne qui dit que la nature est productrice et que l'individu humain, en activant ses forces créatrices, ne fait qu'obéir aux lois qui régissent la nature. Mais alors, comment comprendre l'exercice d'un travail humain qui est régi par les forces de la nature, ou pour reprendre l'image d'un travail qui se compare à celui du ver à soie, et alors même que ce travail est célébré comme une forme supérieure d'activité? Le point intéressant qu'on peut faire sortir ici, c'est que si c'était une activité simplement du ver à soie, Ça voudrait dire que l'individu n'éprouve aucune peine à produire ce qui deviendra autre chose, mais l'équivalent de la soie. Or, et c'est un argument qu'introduit Marx lui-même, le fait de surmonter des obstacles est en réalité une source de satisfaction qui peut être obtenue tout particulièrement dans ce qu'est la nature créative du travail. Autrement dit, la liberté d'autodétermination dans le cours de l'activité et dans l'autonomie n'exclut nullement l'effort, le sérieux, la dedication to one's work, pourrait-on dire en anglais, grand thème d'une certaine psychologie du travail, de la motivation, ou encore le soin pris à son travail, comme dirait Caves. La citation que je peux vous donner ici est assez intéressante. C'est une critique d'Adam Smith. C'est une citation sur laquelle Jan Elster a attiré mon attention, et donc j'ai plaisir à la donner. Adam Smith semble n'avoir pas l'idée que surmonter des obstacles puisse être en soi une activité de la liberté. Que le travail soit attractif et auto-effectuation de l'individu ne signifie en aucun cas qu'il soit pur plaisir, pur amusement, comme le pense Fourier avec ses conceptions naïves et ses visions de grisette. Des travaux effectivement libres, comme la composition d'une œuvre musicale, par exemple, requièrent justement à la fois un sacré sérieux et l'effort le plus intense. Je m'aperçois, en faisant ce premier cours, que je ne vais peut-être pas exactement respecter l'ordre que j'ai indiqué, puisque mon cours contient plus de substance pour vous donner la démonstration complète de cette première séance que le temps que j'ai utilisé jusqu'ici. Donc, je vais déplacer la deuxième partie de ce cours vers la deuxième séance et j'enchaînerai. Et donc, il se peut que ce que je prévoyais en quatre séances en fasse cinq, mais c'est aussi mon apprentissage du rôle, c'est-à-dire d'un travail complexe, et je ne peux exprimer mes potentialités qu'en l'exerçant in situ, et donc je m'aperçois que je suis un apprenant devant vous. Et donc je vais terminer par une citation de Paul Valéry, ou plutôt un argument de Paul Valéry, pour vous montrer que ce que je vous dis, c'est aussi l'exercice de la réflexivité par le travailleur que peut être un artiste. Paul Valéry insiste beaucoup pour dire que le travail du créateur, c'est une obstination, une opiniâtre et obsessionnelle préoccupation à poser et à résoudre d'incessants problèmes, et s'il s'agit d'une sorte de relance indéfinie de l'œuvre, ça n'est pas le témoignage de l'impuissance à faire et à parfaire une œuvre, mais c'est un acte d'invention qui est un acte qui qualifie à la fois l'invention de soi et l'invention de l'œuvre. Production et résolution de problèmes, ça implique autant un travail sur soi qu'un travail à partir de soi, une production d'une œuvre autant qu'une réalisation transformatrice de soi. Voilà le genre d'écho qu'on peut trouver à ces thèmes que j'ai mis en analyse jusqu'ici. Et je vous propose de terminer cette démonstration avec les deux autres conditions et l'examen de leur réalisme dans le début de mon deuxième cours, ou mon troisième cours si j'inclus la leçon inaugurale. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent pour le séminaire que va donner Claude Tello immédiatement après une pause de 2 minutes dans laquelle nous allons offrir un micro à Claude Tello et l'installer à mes côtés. C'est moi qui serai le discutant. Merci à vous.